La première.
Oui.
22h, 23h.
Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire. Jacques Delcuvellery, metteur en scène, cofondateur du groupe OFF, nous recevait chez lui pour parler du spectacle du groupe OFF, Rwanda 94, un spectacle qui a fait date dans l'histoire du théâtre, à la fois par son ambition, sa lucidité, son engagement et sa beauté aussi. Un spectacle né du choc devant le génocide rwandais qui commence le 6 avril 1994, il y a 30 ans. C'est la première partie d'une émission qui en compte deux.
À travers nous, l'humanité vous regarde tristement. Nous, morts d'une injuste mort, entaillés, mutilés, dépecés, aujourd'hui déjà oubliés, niés, insultés. Nous sommes ce million de cris suspendus au-dessus des collines du Rwanda. Nous sommes à jamais ce nuage accusateur. Nous redirons à jamais l'exigence, parlant au nom de ceux qui ne sont plus et au nom de ceux qui sont encore. Nous, nous qui avons plus de force qu'à l'heure où nous étions vivants, car vivants, nous n'avions qu'une courte vie pour témoigner. Mort, c'est pour l'éternité que nous réclamons notre dû.
Commémoration, ils ont voulu faire une grande exposition à Aix-en-Provence, au camp des Mille. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit historique où il y a eu un lieu de déportation, etc. Ils ont maintenant aménagé ça, le vaste lieu culturel, je dirais. La première fois que nous y irons, donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Et avec comme artiste invité principal, Bruce Clark. Bruce Clark est un artiste sud-africain, art plastique, disons, qui a fait des tas de choses. Mais à part d'être un homme tout à fait remarquable comme sud-africain blanc d'exception, il était un des très rares occidentaux, ou on peut pas, un sud-africain, on peut pas dire occidental, mais de civilisation extérieure, disons, qui était au Rwanda en 94, dès le mois d'août. C'est-à-dire un mois, deux mois après le... C'était d'ailleurs pas totalement jamais terminé, d'ailleurs pas avant des années, le génocide. Mais enfin, les trois mois du génocide lui-même, globalement, c'est quand même avril, mai, juin, il était là au mois d'août déjà. Il a consacré une partie importante de son œuvre au Rwanda. Et Groupov a collaboré avec lui parce qu'il est venu voir le spectacle plusieurs fois. On a fait les choses ensemble, c'est-à-dire par exemple quand on a joué, je crois, à Beaux-Arts, au Musée des Beaux-Arts, à Bruxelles, et à l'extérieur, il y avait... des kakémonos, des très grandes peintures allongées qui s'appellent les hommes debout, mais enfin il y a aussi les femmes là-dedans, qu'il a fait dans la mémoire du génocide, quoi, des gens qui marchent. Et puis alors toute une série de photos étaient projetées. Et on a fait ça à d'autres occasions avec lui. Et donc Bruce Clark a voulu qu'il y ait présence de quelques autres aussi. Donc il a mis de nouvelles œuvres que je ne connaissais pas du tout, très lumineuses, très blanches, qui sont plutôt des sculptures, des choses qui pendent dans des linges très très blancs. Et les corps font aussi penser au corps, pour ceux qui ont été au Rwanda, font penser au corps qu'il y a dans le lieu de mémoire génocidaire qui s'appelle Murambi, des corps qui ont été figés, tout recouverts d'une espèce de chaux blanche comme ça, dans leur mort. Donc on voit des mères avec un enfant, contre elles, enfin. Et donc il y a tous ces corps qui sont dans des anciennes salles de classe, quoi. Et donc, il a mis ça, il a fait quelque chose de semblable. J'en parle sûrement pas bien parce que je ne connais que par photo, pendu dans des linges blancs, transparents, enfin translucides, entre transparent et translucide, éclairé de l'intérieur, comme si ses corps émettaient une lumière. Mais Bruce a décidé que c'était Bruce, que c'était mieux quand même d'inviter quelques personnes d'autres autour de lui. Et donc il a demandé à Groupoff qu'est-ce qu'on pouvait donner d'un groupe comme le nôtre dans une expo. Et donc il a consacré deux ou trois vitrines à mettre en évidence le coffret qu'on a fait où il y a le spectacle, un coffret Rwanda 94, où il y a tout le film du spectacle, plus trois documentaires. Il a mis en évidence l'édition en Kinyarwanda, Rwanda, puisqu'on a fait pour le Rwanda de traduire toute la pièce en Kinyarwanda, Rwanda, etc. Quoi. Il nous a consacré, c'est ça que je voulais vous montrer, parce qu'il y a une historienne, Annette Becker, qui est dans ceux... Est-ce que j'ai le livre là? Je ne sais plus. Dans ceux qui ont édité, conçu ce recueil qui, pour la 30e commémoration, est sorti, est paru. Alors là, pour une fois, ce n'est pas sur une maison confidentielle que Groupoff publie, genre Alternative Théâtrale ou Théâtre République, c'est chez Gallimard, carrément. Et c'est un recueil de textes, essentiellement d'historiens, de juristes, de spécialistes, mais aussi de quelques artistes. Et donc Marie-France et Collard et moi, on a écrit un article là-dedans, et précisément qui commence par le choc, ce que je vais vous raconter maintenant si vous me parlez du Rwanda, le choc originel d'où était sorti, et ils ont repris le choc et demandé à tous ceux qui participent au livre quand est-ce qu'ils ont pris contact, comment et quelles ont été les conséquences de leur façon personnelle d'être entrés en contact avec le génocide, soit au moment même, soit plus tard.
Mais on va quand même aussi revenir au choc pour vous. Quand est-ce qu'il a lieu pour vous? Est-ce que c'est au moment même du génocide? Oui.
Oui, c'est au moment même du génocide, et bien sûr, par des moyens de connaissance indirects, c'est-à-dire essentiellement la télévision, un peu la radio, la presse. Alors c'est tout un autre développement d'expliquer pourquoi, contrairement à d'autres personnes très bien, nous avons eu ce choc, moi et Marie-France, au moment même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on était préparé à savoir deux choses? C'est, un, qu'on était devant de nouveau une horreur, genre au moins crime contre l'humanité, certainement, pour nous très vite un génocide, et donc de ne pas croire tous ceux qui disaient d'autres choses. Et deuxièmement, d'être convaincu dans le même temps que la manière dont ces événements nous parvenaient, dont certains les constituaient en information, étaient majoritairement fausses. Donc ça arrive par la télé, on voit des images, vous savez qu'il y a, je me souviens d'un article du Monde diplomatique consacré au génocide et qui avait titré un génocide invisible, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes images et un très petit nombre d'images. Donc il y a le choc de ça, dont on sent bien qu'on ne voit qu'une petite partie, c'est-à-dire des corbeaux le long des routes, des chiffres où personne n'est d'accord, mais qui montent tout le temps, d'estimation de ceux qui n'ont pas accès, manifestement, au terrain même. Il n'y avait pas vraiment de journalistes qui ont couvert l'événement sur place pendant ces 3 mois. Et il était manifeste pour nous qu'après, jusqu'à l'écœurement, la répétition, le leitmotiv, plus jamais ça, de la pseudo-communauté internationale qui a tout sauf, qui est tout sauf une communauté. Le plus jamais ça, bah ça a recommencé tout à fait, sans personne qui semble en mesure, ni dans l'intention, de l'arrêter, ni même de le qualifier. Les morts n'avaient pas d'importance, pas de nom, pas de visage. L'humanité qui leur avait été déniée dans la mise à mort se poursuivait au-delà. Ce n'étaient pas des êtres humains, et pas en tout cas de la première catégorie, c'est-à-dire la nôtre. J'ai un ami qui avait travaillé jadis à la radio, RTBF, et qui me disait « Combien tu crois qu'il faut de noirs, et même d'enfants noirs, africains, tués pour voler la première page, ou au moins la partager, avec Lady Di, la mort de Lady Diana ?» Et il dit « C'est incommensurable. Tu ne peux pas donner un chiffre. Il n'y a rien qui empêchera la mort de Lady Di de prendre la première place. Et puis après, c'est une chose qu'on peut continuer à observer tout le temps. Les êtres humains n'ont pas du tout, du tout, du tout la même importance dans les informations. C'était le cas pour le Rwanda et c'est encore actuellement le cas pour la Palestine. En tout cas, c'est clair. Si on transpose les 30 000 morts jusqu'à présent à Gaza, et on ne parle jamais que des morts alors qu'il y a des blessés, c'est énorme. Et c'est pour longtemps que les blessés continuent à être une blessure dans un peuple tout entier. Si on considère qu'il y a une trentaine de milliers de morts, et il n'y a pas que le Hamas pour le dire, c'est confirmé par les Américains qui ont même l'air de penser que c'est plus, mais bon. Et que vous transposez ça, le ratio que ça fait par rapport à la population globale de la bande de Gaza, dont je rappelle que c'est un territoire minuscule, c'est la distance entre la Panne et Ostende, sur, dans sa plus étroite minceur, 6 km, 10 km, et 15 maximum, enfin bon. Et tout là-dedans n'est pas habitable, donc là où c'est habitable, c'est extrêmement dense, quand on parle de bouclier humain et tout ça. Oui. Et donc, si au ratio qu'on fait du nombre de morts par rapport à la population, et qu'on disait par exemple que c'était la France métropolitaine, c'est-à-dire l'Hexagone, eh bien, ça ferait plus de 900 000. 2%, c'est presque 1 million de Français. Donc, qui peut-on se permettre de tuer, même en militaire, mettons, hein, pas seulement, mais enfin, en femme, en enfant, tout ça, en 4 semaines, 5 semaines? Non, c'est plus que ça maintenant. 3 mois. Qui peut-on, en 3 mois, quel pays, comme si en France, on tuait, en 3 mois, mettons de 700 000 à 900 000 personnes? Qui? C'est-à-dire, les poids des vies n'ont pas du tout, sont pas du tout équivalents à travers le monde, et les circonstances, et les alliances, et les calculs géostratégiques, etc. Bref, c'était la même chose au Rwanda. D'une part, tous ces morts n'avaient pas d'importance. Et d'autre part, la manière dont ces faits nous parvenaient sous forme d'information par les médias nous paraissait incroyablement réductrice, intéressée ou fausse dans tous les cas, parce qu'il y avait deux phénomènes qui nous procuraient cette sensation, conviction. D'une part, les différences d'appréciation selon les médias, c'est-à-dire les anglo-saxons, CNN, BBC World, avaient une forme d'approche de ce qui se passait là. Les Français, complètement autres. Les Belges, encore différents, avec des interlocuteurs qui rompaient un peu avec le racisme ambiant, je dirais. Parce que non seulement les versions ne s'accordaient pas sur ce qui était en train d'advenir, qui avait des responsabilités là-dedans ou pas, mais elles ne s'accordaient pas non plus sur le caractère de ce qui arrivait sur la... C'est-à-dire, enfin, globalement, la version dominante, restons à là, était, c'est une bataille de clans, une bataille d'ethnie, une bataille de tribus, comme il y en a partout en Afrique tout le temps, et où se développe la barbarie. Alors, ils n'osaient pas dire nègre, mais enfin, la barbarie, sous-entendu, dès que les Blancs ont tourné le dos. En tous les cas, il était clair que nous n'avions, si on écoutait les médias, aucune responsabilité, les Occidentaux, là-dedans. c'était quelque chose de d'ancien qui arrivait dans ce pays, des haines ancestrales, et qui brusquement, suite à l'assassinat du président Habyarimana, hein, se déchaînait, et personne ne réussissait à freiner cette haine ancestrale. Donc on n'avait aucune espèce de responsabilité. Mais au fur et à mesure que les semaines et les mois avançaient, et à partir notamment de l'opération turquoise, de la France qui allait soi-disant, qui s'est auto-proposée, désignée, vaguement confirmée avec des réticences par l'ONU, on s'est dit mais pourquoi la France est tellement désireuse d'aller là-bas et qui fait-elle exactement? Et là, brusquement, changement complet de dramaturgie. Les écrans ont été envahis, on a grouillé de journalistes, on montrait comment nos troupes étaient bien accueillies par les Hutus, que les jeunes filles dansaient pour eux. Et puis alors, au fur et à mesure des informations autrement, mieux armées, des gens comme Colette Braeckmann, par exemple, la journaliste la plus compétente et la plus expérimentée et la plus lucide dans tout ce bassin.
Votre premier voyage date du début des années 80, vous en avez fait beaucoup d'autres ensuite, notamment au début de la guerre dans les années 90. Alors comment est-ce que vous avez senti les choses se détériorer peu à peu ?
Mais au début des années 80, là où j'étais, disons, comme journaliste belge, instruit, disons, de l'information moyenne qu'on avait en Belgique, c'est que le Rwanda n'allait pas trop mal. C'était le point de vue qu'on avait vu de Belgique. Et puis, progressivement, en y allant, je me suis rendu compte des failles qui existaient dans cette société, des failles entre des relations entre les communautés Hutu-Tutsi, des failles au sein même du régime, du durcissement aussi de la crise économique qui a aggravé les choses. Et évidemment, la guerre de 1990 a tout d'un coup, le rideau s'est déchiré, si vous voulez. Là, on a vu que les failles étaient immenses et que derrière cette apparence de paix, c'était un pays pauvre mais qui était bien organisé, il y avait des failles immenses dans les relations interpersonnelles entre les communautés, qui avaient un fond de haine et de rancœur entre les gens, et qui s'est évidemment accentué depuis la guerre de 1990 et qui évidemment est arrivé jusqu'au basculement absolu de 1994.
Et le développement économique du Rwanda est quand même assez extraordinaire. Quand on voit des photos aujourd'hui de Kigali, ça n'est plus la même ville qu'en 1994. Tout a été totalement modifié, modernisé, et c'est assez impressionnant quand même.
Oui, il y a une sorte de table rase du passé, table rase par la force des choses. Vous arrivez à la fin du génocide avec 1 million de morts, les églises sont des charniers, les rues sont des cimetières, les corps sont encore dans les fossés. Et donc le Front patriotique arrive et fait table rase du passé et dit maintenant on doit construire, pas en partant de zéro, mais de presque moins 1 million de victimes, on doit reconstruire. Et donc ils essaient de refaire un ordre, je n'aime pas l'expression, mais un ordre nouveau de reconstruire, avec l'aide de tous ceux qui le veulent bien, la communauté internationale, mais aussi la diaspora. Toutes les exilés du Rwanda rentrent au pays, et alors que l'aide tarde, toujours pour des raisons bureaucratiques ou politiques, à se mettre en place, tous les Rwandais qui ont vécu à l'étranger reviennent avec leur argent, leurs économies, leur dynamisme, et ils se mettent à reconstruire les maisons, à se lancer dans des entreprises, et donc le pays se remet sur pied. Et donc c'est remarquable de voir qu'en 20 ans, ce qu'il était possible de faire, parce que c'est aussi une leçon pour d'autres. On voit en Afrique d'autres pays qui sortent de conflits, qui sont ruinés, et je pense que ce que le Rwanda a réussi à faire, par exemple à garantir l'accès à l'éducation à 90% de la population, garantir l'accès aux soins de santé, tout ça c'est extraordinaire. Donc c'est possible de le faire en l'espace d'une génération, mais ça demande un régime strict, une lutte implacable et quotidienne contre la corruption qui est terrible. Il y a une surveillance de chacun, tous les actes de corruption sont sévèrement sanctionnés jusqu'au plus haut niveau. On voit des ministres qui sont chassés du gouvernement, des militaires qui perdent leur poste, qui partent en exil, parce que chaque fois la corruption est réprimée par toutes ces décennies d'humiliation, de discrimination puisse le génocide, la perte immense de leur famille, des leurs. Et alors, il y a cette diaspora qui arrive avec toute son énergie, son dynamisme, ce qui est bon parce qu'elle tire tout le monde vers le haut, elle tire les gens vers le commerce, le travail, vers l'avenir. Et en même temps, c'est difficile parce que si vous ne marchez pas, vous êtes largué. Ce qui est remarquable au Rwanda aujourd'hui, c'est que vous pouvez circuler dans le pays, dans les villes, dans les campagnes, à toute heure du jour et de la nuit, avec un sentiment de sécurité physique immense. Personne ne va vous agresser. Mais le revers de ça, c'est qu'il y a une surveillance. Évidemment, il y a la sécurité, donc il y a la police surveille. Le soir, 17h, l'armée est présente dans les rues. Elle tient la situation à l'œil, donc il y a la sécurité, il y a la surveillance.
Colette Brackmann, elle établissait clairement que l'opération turquoise n'était pas du tout uniquement faite pour éventuellement sauver des gens, mais pour exfiltrer la famille Abiyariman, aller détruire, on le saura plus tard, des documents d'état d'archives et qui cachaient peut-être aussi des trafics. Et puis surtout de freiner la victoire du RPR et d'empêcher qu'elle ne soit aussi rapide et totale. Le RPR, que la France qualifiait, c'est son état-major, etc., de Khmer noir. Donc tout ça, où se sont pressés des personnalités politiques aussi. Il y a Léotard qui est allé sur place, serrer des mains, y compris de hautes personnalités génocidaires, etc., etc. Bon, bref. Et puis on a eu de plus en plus d'informations également au niveau des barrages qu'il y avait eu à l'ONU, le fait que il y avait une bagarre pour ne pas appeler ce qui se passait un génocide, parce que les Américains ont freiné sur ça pour ne pas être obligés d'intervenir, puisque quand l'ONU établit que c'est un génocide qui est en cours, on est sommé, tenu d'intervenir. C'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas pour d'autres régions actuellement. Et quand on mettait tout ça ensemble, il y avait deux choses donc, qui nous ont extrêmement bouleversés, remués, et on peut le dire, révolté. Le choc de 94, c'est une révolte très profonde. Une révolte donc contre ces deux phénomènes. Le massacre qui arrive sans que personne ne manifeste l'intention, ne soit capable de l'arrêter. Et on découvrira plus tard qu'il avait été prédit de longue date. Deuxièmement, l'information. Et donc on a décidé à un moment donné qu'on essaierait quelque chose avec nos moyens à nous, pluridisciplinaires et dramatiques, qu'on essaierait quelque chose, une tentative, parce que à quoi peut-on prétendre de plus quand il s'agit d'un phénomène pareil, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants. Donc le sous-titre et l'objectif de la création, ça a été ça, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants. Et on avait écrit autrefois dans le souci des vivants, on hésitait, mais à la fin, et grâce à l'anglais, on a essayé de se servir de la formule pratique « for use by the living », pour qu'on s'en serve, pour que ce spectacle puisse aider, si possible, autant que les spectacles peuvent aider. C'est pas le moyen le plus influent qui existe, même s'il s'inscrit, lui, parfois vraiment en profondeur dans les gens qui le vivent, mais plus que d'autres moyens d'expression, mais en tout cas, pas le plus large, pour qu'on s'en serve dans la perception de ce qui conduit à des massacres, à des crimes d'une telle envergure, et aussi sur la prévention, le développement d'un réflexe préventif contre les informations en général, d'aller voir par soi-même et de prendre le temps d'entendre et de voir.
Il y a un moment très très beau sur l'information, justement, où il est dit « la vérité a besoin du désir d'être écoutée ». C'est un moment extraordinaire, le désir de la vérité.
Moi, BBB, que la presse spécialisée nomme l'ange intraitable, parce que d'une main je tiens une opinion, et de l'autre main une autre opinion. Et qu'en conscience je soupèse l'une et l'autre pour que de ce mouvement impartial naisse la vérité. Moi, BBB, qui soigne mes mots et ma mine pour dire à tous ceux qui m'écoutent, tels sont les faits, mes amis. En conséquence, faites votre jugement. Moi, BBB, je déclare aujourd'hui vouloir mettre ma compétence au service de la cause que vous connaissez. Je suis honorée. Je suis aussi inquiète, oui. Je le dis sans honte. La responsabilité est lourde. Qu'adviendra-t-il si je remplis ma tâche incorrectement? Aussi, ai-je décidé de préparer cette émission historique avec le plus grand soin.
Et moi, dis-je, pourquoi m'avoir fait venir? Et me tendant la main, Bibi répond:
je veux comprendre.
Mais que suis-je, moi, pour vous faire comprendre?
J'ai besoin de vous pour comprendre.
Je suis un homme droit, le meilleur de moi-même. Je le cherche chaque jour dans les meubles que je fabrique avec ces mains-là, m'obstinant à n'avoir avec ce qui m'entoure que des rapports respectueux. Je tire fierté de mon travail. Mais cette fierté suffit-elle pour faire de moi celui qui vous aidera à comprendre? N'avez-vous pas des experts, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des politologues, qui, bien plus titrés que moi, pourront dire pourquoi ce qui est arrivé relève de causes explicables? Et voyant que ma réserve était sincère, Bibibi dit encore:
à tout savoir, il faut un destinataire, monsieur. Il n'y a pas de vérité possible là où personne n'écoute, avec la plus infime parcelle de sa peau. Vous êtes donc ici, avec moi, parce que la vérité a besoin du désir de la vérité. Celui qui ne veut pas savoir ne saura jamais. On lui administrera 1000 fois la preuve, et la preuve de la preuve, et 1000 fois celui qui ne veut pas savoir dira: les choses sans doute se sont passées comme vous le dites, et pourtant je n'arrive pas à y croire. N'avez-vous pas exagéré? N'avez-vous pas quelque intérêt à présenter ainsi l'affaire? Ainsi parle celui qui ne saura jamais, parce que depuis la nuit des temps, il ne veut pas savoir. Mais vous...
reprend Bibibi en s'adressant à moi.
Oui, vous. Je vous sais d'une autre étoffe. Je vous invite à recueillir avec moi la vérité, et d'une commune franchise à l'adresser aux millions d'humains qui attendent mon émission.
C'est-à-dire toute la construction de la machine collective que nous avons constituée entre nous pour produire ça. Comment s'est constituée cette machine collective? Comment ça se fait que Jean-Marie Piem est un des auteurs? Comment ça se fait que collaborer à l'écriture des Rwandais? Comment tout ça s'est organisé? A été fait dans ce souci-là, on ne savait pas encore le définir aussi précisément que je viens de vous le dire, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants, et ça a structuré toute la dramaturgie. Donc par exemple, les personnages, donc ça commence par le témoignage d'une véritable rescapée, Yolande Mukagasana.
Je suis un être humain de la planète Terre, je suis une femme. Je suis une Africaine du Rwanda, je suis rwandaise. Je ne suis pas une comédienne. Je suis une survivante du génocide du Rwanda, tout simplement. C'est cela ma nouvelle identité. En 1994, je suis mariée. Mon mari Joseph et moi avons 3 enfants. Nous sommes heureux. Je ne suis qu'une infirmière en chef de mon dispensaire. Je soigne tout le monde. Je ne sais pas qui est Hutu ou Tutsi. J'aime tous mes patients. Mais le soir du 6 avril, tout a basculé. Mon mari, orphelin des massacres de 1963, il ne pouvait plus prendre une décision. Il était comme paralysé. J'ai appelé les enfants, je leur ai dit: écoutez, ce soir on ne dormira pas dans la maison, c'est très dangereux. On va essayer de dormir en dehors de la maison, dans la brousse. Alors il fallait voir mes enfants, qu'ils ne comprenaient pas comment on peut dormir dans la brousse alors qu'on a une maison. Cette brousse où on espérait y passer une nuit seulement et que cela sera en ordre le matin, on y a passé toute une semaine durant laquelle je n'ai pas pu alimenter mes enfants. Je les ai vus fondre. J'ai mis en marche la radio. C'était une liste interminable des morts de la nuit. Aujourd'hui, 11 ans après, jour pour jour, je devais être morte. Et je suis là. Tous les enfants des amis qui nous disaient: voilà, les assassins viennent de partir, ils ont tué toute la famille, j'ai survécu. Et je vois que maman ou papa respirent encore, est-ce que vous pouvez l'amener à l'hôpital? Le 12 avril, un voisin, André, il est venu dans la brousse. Le garçon a éclaté, il a pleuré. Il a dit, écoute Joseph, je n'ai rien contre toi ni contre ta famille, mais aujourd'hui c'est le dernier jour pour les Tutsis. On nous a dit de les tuer tous, du bébé au vieillard, même les malades. Mon mari m'a dit, je n'ai pas de choix. Je dois y aller, c'est un ordre. Toi, tu vas continuer à te cacher. J'ai appelé ta nièce Espérance qui vient chercher les enfants. Comme ça, on se sépare pour mieux se protéger. Et moi, je vais aller à la barrière. Je lui ai dit, mais tu deviens complètement fou. Tu seras tué. Et puis, comment veux-tu que les enfants traversent la rue sans être vus pour être tués aussi? Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je vais marcher vers la barrière. Tout le monde va se retourner vers moi. Et comme ça, les enfants pourront traverser. Je pense que mon mari s'est sacrifié pour nous sauver la vie. Mais ce n'était pas possible. Ils ont mitraillé tous les Tutsis sous nos yeux. J'ai vu tout le monde tomber. Mon mari aussi. Je le croyais mort. Mais il n'a pas eu cette chance. Il attendait sans doute le pire. Mon mari, que j'ai reconnu plus tard, on le frappait, il tombait. On le relevait, on le frappait, il tombait, on le faisait marcher. Lorsque j'ai vu une main avec une machette qui s'abat sur son bras, je me suis évanouie, je crois. Je n'ai pas vu la suite. Lorsque je me suis réveillée, j'avais soif. Je n'ai jamais senti cette espèce de soif que pendant le génocide, où la langue colle au palais et qu'on a peur de la détacher parce qu'on a l'impression qu'elle se déchire. Je suis retournée chez Combe pour demander à boire. Il n'était jamais là. Et j'ai demandé à Cécile de me donner de l'eau. Elle était étonnée de ne me voir. Elle me croyait morte parce que, m'a-t-elle dit, il y avait 2 jours que je n'arrivais pas chez elle. Je ne m'en rendais même pas compte. J'ai profité qu'elle est allée me chercher à boire. J'ai touché dans le sac de sucre qu'ils avaient pillé chez moi. J'ai volé mon propre sucre. J'ai rempli les poches de mon pantalon. Je pensais que je devais avoir quelque chose à donner à mes enfants s'ils étaient encore en vie. Mais je ne peux pas vous dire à quel point c'était humiliant de voler mon propre sucre. Moi, en ce moment-là, je suis allée voir les enfants. Ils étaient là chez ma nièce. Ils étaient blessés, mais vivants. Torturés à fond, mais vivants. Et c'était l'essentiel. C'est le dernier moment de bonheur que nous avons passé ensemble, de nous retrouver. Je m'en veux de ne pas avoir compris que c'était la dernière fois. Mes filles avaient des jambes gonflées, frappées. Mon fils avait une fracture ouverte du bras. J'ai essayé d'immobiliser la fracture. Il m'a dit, maman, arrête. Ça ne sert à rien, on va nous tuer. J'ai essayé de leur dire que non. Que personne ne peut les toucher. Il m'a dit, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mon fils m'a raconté ce qu'ils ont vécu. Il m'a dit, tu sais, maman, nous avons été torturés sur le cadavre de papa. Est-ce que tu sais qu'il n'a plus qu'un bras, maman? On était en train de parler quand je leur ai dit, vous savez, je ne vous quitte plus. Donc, maman, tu dois partir. Ils nous ont dit que si à 7 heures du matin, on ne dit pas où tu es, on va nous tuer. Pars, loin de nous. Si on survit, on se reverra. On était en train d'en discuter. Lorsque mon ancien jardinier est arrivé, il avait une machette, mais dégoulinante de sang. Il était devenu un assassin. Je ne pouvais pas l'imaginer de ce jeune homme. Et il m'a dit, mais toi, serpent, qu'est-ce que tu veux ici? Tu veux faire assassiner tes enfants? Tu n'as pas de chance de survivre, tu dois partir. Je m'en veux aujourd'hui de l'avoir écouté. Moi, tu croyais aller à la mort et que mes enfants auraient la vie sauve. Je l'ai écouté, je suis partie et voilà, ce sont mes enfants qui ont été tués. Je me sentirai toujours comme une mère indigne. C'est l'horreur. Devant l'abandon que nous avons vécu et devant l'abandon et le silence actuel, qu'est-ce que nous avons pu faire à l'humanité pour subir autant de souffrances et d'abandon? Est-ce qu'on peut m'expliquer? que ceux qui n'auront pas la volonté d'entendre cela se dénoncent comme complices du génocide au Rwanda. Moi, Yolande Mukagasana, devant vous et devant l'humanité, je déclare que quiconque ne veut prendre connaissance du calvaire du peuple rwandais est complice de bourreau. Je ne veux ni terrifier ni apitoyer. Je veux seulement témoigner. Ces hommes qui m'ont fait subir les pires souffrances, sans doute jusqu'à la fin de ma vie, je ne les hais ni les méprise. J'ai même pitié d'eux.
Fallait donner à ce génocide une réalité qu'il n'avait pas eue au moment même. Si on parle, si on fait quelque chose, un spectacle sur la Shoah, ou même sur la guerre d'Algérie, etc., ben en France, en Belgique, on sait de quoi il s'agit, on a des références quand même. Le Rwanda, les trois quarts des gens ne pouvaient même pas situer où c'était, ni quoi que ce soit sur ce pays. Et ils en avaient eu si mal ou peu reçu des choses pendant le temps que ça se déroulait, que donc, comment leur communiquer la réalité, ce que c'est le génocide? Nous n'allons pas du tout les assommer d'images d'horreur, parce que qu'est-ce qu'on apprend à travers ça, si on commence par là? Donc, on avait prévu que quelqu'un, puisque on a nié, en les exterminant tous, en essayant de les exterminer tous, leur humanité, et que c'était, mettons 1 million, de fois une personne. Donc le génocide, c'est anéantir des centaines de milliers, voire des millions, de personnes. Et donc il fallait prendre contact avec une personne, et par quelque chose d'autre que, donc par le récit. Le récit, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, c'est un humain. Et donc Yolande avait écrit un livre de témoignages, qui avait été écrit en collaboration avec quelqu'un qui recueillait ce témoignage, et puis elle l'a... Et elle était d'accord, elle était plus que d'accord, pour qu'on communique son témoignage sur scène. Tous les acteurs, toutes les actrices, on a même pensé à faire jouer ça par une actrice blanche, une actrice rwandaise, Carole Karimera. Tout le monde a refusé de faire ça avec Yolande en face de soi, avec Yolande vivante qui entend son témoignage interprété. Elle ne se sentait pas en mesure d'être à la hauteur de ça. Et donc Yolande a dit, mais je vais le faire moi-même. C'est ça ma nouvelle identité. Je suis une rescapée du génocide qui témoigne sur les génocides. Pour l'instant, j'ai pas d'autre but dans la vie. Je me suis tiré du génocide. Je n'étais plus mère, épouse. Je me suis refait une identité qui est douloureuse et moche même. Mais de témoigner, j'ai résolu de témoigner. Donc, on a commencé à dire, bon, ben, on va faire avec cette réalité. Donc, les différentes transgressions, au fond, sur le plan théâtral, où Rwanda 94 n'est plus strictement une pièce de théâtre, se tient sur des limites. Ça n'a pas été anticipé. C'est imposé que ça serait Yolande. Et ça s'est imposé en plus que ça serait fait à la fin, après un long travail avec elle, dans la simplicité où c'est. C'est-à-dire une petite femme, pas au premier plan, au milieu de la scène, pas au centre, un peu sur la gauche, côté jardin, assise, en sorte qu'un peu tournée trois quarts, elle peut, quand elle veut, regarder la salle. Et elle est dans une solitude incroyable, comme ça, tout, alors qu'il y a encore tout l'orchestre qui est là, quand même. Et tout est sur cette petite femme, extrêmement vulnérable et exposée, et qui assume ça, avec un calme, avec une émotion, mais aussi une maîtrise exceptionnelle, et qui commence d'ailleurs dans une langue qui n'est pas la nôtre, et qu'elle traduit ensuite. C'est la seule chose que j'ai écrite de son intervention, c'est, elle le dit d'abord en Kinyarwanda. Je suis un être humain de la planète Terre. Je suis une femme. Je suis africaine. Je suis une africaine du Rwanda. Je suis rwandaise. Voilà ce qu'elle est. Et puis, elle commence, je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une comédienne, je suis une rescapée du génocide, et elle raconte 6 semaines de sa vie. C'est-à-dire que d'emblée, le spectacle commence par la différence. Il y a quelqu'un d'incroyablement différent de nous. Elle n'a pas la même couleur de peau. Elle parle une langue étrangère dont je ne connais rien, d'une culture que je ne connais pas, d'un pays que je ne connais pas. Et elle va devenir toujours aussi singulière. Pas comme nous au sens littéral, mais néanmoins incroyablement proche de ce que sont les sentiments ici aussi quand on perd sa famille, quand on voit son frère pour la dernière fois, quand, etc., etc. Quand il est face à la mort, à la violence, à la menace, à la faim, à la soif, à tout ça. Un million de fois ça, c'est ça le génocide. Et après, on passe tout de suite à autre chose, sur les moyens d'information. Donc on a un autre personnage clé qui est la journaliste dont vous avez évoqué, Madame Bibi, qui est une vedette de la télévision, suite à un phénomène, et on entre aussi dans la fiction, qu'elle a une émission spéciale au niveau mondial sur TV5 qui devient alors une chaîne très regardée, parce que des fantômes électroniques, c'est-à-dire des spectres, interviennent sur toutes les ondes du monde, perturbent le trafic aérien, les émissions, dérangent les vivants, littéralement, par des apparitions, en s'exprimant dans une langue qu'on ne comprend pas, des enfants, des femmes, des hommes. Et elle va consacrer son émission à ça, et en direct, si je puis dire, son émission Mwaramutse, c'est-à-dire Bonjour en Kinyarwanda, est elle-même interrompue par un spectre. Et Colette Bajimon, qui se trouve sur le plateau avec elle, il y a donc la journaliste au centre, Bibibi, il y a son assistant, Paolo dos Santos, et une femme qui s'appelle Colette Bajimon, qui est un pseudonyme transparent pour Colette Brackman. Et quand l'autre se dit « Mais pourquoi cette jeune femme m'a interrompu? Qu'est-ce que j'ai fait ?» lui dit « Mais je crois que vous avez fait comme beaucoup de journalistes, vous avez parlé de tragédie rwandaise. » C'est un terme très employé. Je crois que les morts ne supportent plus que ça soit une tragédie, un destin, une fatalité. C'est ça la tragédie. C'est une fatalité. Et elle a donné le véritable nom, Itsambabwoko. Génocide. Enfin bon, à partir de là, Madame Bibibi prend l'engagement de faire tout ce qu'elle peut, pour faire une grande émission, etc., etc. Mais dans ce serment qu'elle livre, dans la suite, dans la deuxième partie du spectacle, elle se rend compte qu'elle n'est pas armée, moralement en tout cas, suffisamment, pour savoir ce qu'il faut faire exactement dans cette émission, et elle demande un ange gardien, un guide. Et elle choisit un rescapé juif de la Shoah, qui n'est pas c'était toute une discussion ça avec Jean-Marie Piem jusqu'à ce que je fasse la proposition un ébéniste, parce que nous étions d'accord de ne pas prendre un intellectuel ou un artiste, donc elle lui demande de l'aider dans son chemin. Et ce qu'il va faire, elle va être guidée par deux entités, une vivante qui est ce monsieur Jacob, et une fantomatique, mais très très présente, qui est le cœur des morts, qui est une des grandes instances de Rwanda 94, c'est-à-dire des acteurs rwandais qui jouent des morts, qui sont en principe morts. Et donc, aidée par les morts et par ce vivant, elle va faire un chemin, et nous faisons avec elle, le public, ce chemin, qui est un peu celui que nous avons fait, nous, c'est-à-dire de découvrir les réalités, qui sont les prolégomènes, puis les facteurs directs du génocide, les responsabilités, etc. Et elle lui montre, ça c'est très frappant, un extrait d'un journal d'Antenne 2, devenu France 2 maintenant, donc la chaîne publique, avec comme journaliste présentateur du JT Bruno Mazur. Et il reçoit un homme qui s'appelle Jean Carbonard.
Invité de notre journal, Jean Carbonard, président de l'association Survie. Vous avez passé 32 ans en Afrique sur des projets de développement rural. Vous connaissez très très bien ce continent. Vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. Vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez terribles.
Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents, et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route, et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité et nous étions 8 nationalités représentées dans notre commission. J'étais, disons, le représentant le plus inconfortable parce que je mesurais que notre pays peut, s'il le veut, faire peser sur cette situation. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu'elles assistent militairement et financièrement, mais là, on peut faire beaucoup. Nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Commission européenne et du monde occidental.
Et Jean Carbonard fait partie d'une délégation, une équipe de la Fédération internationale des droits de l'homme, on disait pas encore les droits humains, des droits humains, et cette équipe multinationale rentrait d'un voyage au Rwanda. Un an avant le génocide. Mais où il y a déjà des crimes, des massacres. Donc un an avant l'avril 94. Et Jean Carbonard est dans un état à la fois calme et très très bouleversé. Et il dit, nous avons vu des rescapés de massacres, des femmes cachées dans la forêt avec des enfants. C'est là, il y a des endroits où on tue par centaines. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe là, monsieur Mazur. Et il est là, et puis il commence à pleurer, il n'arrive plus à parler. Mazur ne sait pas quoi faire avec ça. Et puis, bon, on conclut en disant il faudrait que la France fasse quelque chose. Bon, on revient au direct sur le plateau, si je puis dire, et donc Bibi dit voilà, ça a eu lieu un an avant le génocide. Comment ça se fait que ça n'a eu aucune conséquence? Comment ça se fait que la plupart des gens ne se souviennent même pas que cette séquence a existé? Et ça, on a pu le vérifier après. Quand le spectacle a vécu, tourné, qu'on a pu discuter avec le public. Je me souviens du directeur du Festival des Francophonies à Limoges, de l'époque, qui me disait « Mais moi, je regarde tous les jours le journal de France 2 à cette époque-là, de Antenne 2. J'ai dû le voir, ce truc. Et je m'en souviens pas, parce que le contexte dans lequel c'est pris, ça lui a pas donné une valeur particulièrement marquante. C'est-à-dire que... plonger dans le chemin que suit Rwanda 94, on se dit, mais enfin, on savait ça un an avant. Et puis, on saura que le général Dallaire a envoyé le chef des troupes de l'ONU sur place des rapports disant que ça allait arriver, qu'on savait le plan, et donc que ça a quand même eu lieu. Ça raconte des choses, dans le genre à l'usage des vivants, sur la vigilance qu'on devrait déployer à tout instant. Et d'où s'ensuit longue chanson par Jean-Marie Muyongo qui s'appelle « La litanie des questions » et où le refrain est « Ces appareils qui propagent l'information, écoutez-les mais méfiez-vous, ce sont eux qui infectent les cœurs et souillent les esprits. »
Écoutez-les, soyez ce faux gars, regardez-les mais méfiez-vous, ces appareils qui propagent l'information. Ce sont eux qui infectent les cœurs et souillent les esprits. Une hyène rusée se met à beugler à la manière d'une vache. Nous sommes dans leur tanière. S'il vous plaît, soyez vigilants. Mais eux, le savent-ils et le diront-ils?
Diront-ils que RTLM a continué à diffuser ses messages de haine pendant le génocide à partir de la zone dite humanitaire française, la zone turquoise?
Diront-ils que les services secrets belges, français et américains avaient reçu les mêmes informations? Diront-ils que la réponse de l'ONU au général Dallaire a été l'ordre formel de ne pas intervenir?
Marie n'oublie pas de dire que c'est la tutelle belge qui instaura en 1931 le livret d'identité avec mention ethnique.
Diront-ils que si notre histoire, comme toute histoire d'un État-nation, n'est pas sans guerre de conquête ni intrigue de cour, jamais de mémoire d'homme avant la colonisation du Rwanda, il n'y eut de conflit ethnique entre les Bahutu et les Batutsi.
Même s'il n'oublie pas d'en parler, comment pourrait-il dire la brûlure de la chicotte, le poids de corvée, la morsure de la faim?
Ce n'est pas leur chair qui fut meurtrie, ce n'est pas leur sang qui coula et sécha, ce ne sont pas leurs enfants qui périrent.
La voie de la réconciliation ne conduit pas à l'oubli. Que l'on cueille nos os dans les marais, sur les flancs des collines, dans les fosses communes, que l'on plante nos noms sur une croix.
Nous sommes ce million de cris suspendus au-dessus des collines du Rwanda. Nous sommes ce nuage accusateur. Nous attendons de vous réparation pour nous, les morts, et pour tous les survivants, pour tous les Rwandais, pour tous les hommes de la terre.
Eh ben, je pense pas que les gens aujourd'hui soit de nouveau, et pourtant Dieu sait s'ils ont eu de quoi entrer dans cette vigilance. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que nous on a commencé par ne pas croire ce qu'on nous racontait. L'Irak, tout le monde a été convaincu, Tony Blair voulant absolument convaincre les Britanniques que les experts qui avaient visité l'Irak n'y avait vu que du feu, que c'était faux, qu'il existait bien des armes de destruction massive, que etc. On a vu Colin Powell agiter sa petite ampoule, et puis montrant des plans où il y a des rampes de lancement, etc. Et après, sans aucune vergogne, après avoir renversé le régime, ce qui a créé une guerre civile qui a duré longtemps après et qui a permis à l'État islamique, qui jamais n'aurait vu le jour sous Saddam Hussein, de se développer, de plonger toute la région dans l'horreur. Hein, tout ça pour une influence géostratégique et les puits de pétrole. Eh bien, il n'y a jamais eu aucun scrupule. On a dit, oui, on s'est trompé, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, mais on a bien fait quand même de renforcer la tyrannie. Hein. Ils n'avaient d'ailleurs même pas de plan B. Hein. Comment est-ce qu'on va faire avec le pays? L'important, c'était d'avoir mis leur pion en avant. Donc, on avait quand même de quoi pouvoir soupçonner que quand on regarde des conflits, quand il s'agit des Français, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt du reste d'impérialisme français?
Les Français ont été les seuls quand même à ne pas foncer dans la guerre en Irak. Merci Dominique de Villepin.
Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a aussi une attitude qui est fort critiquée par rapport à ce qui se passe en Palestine. Mais M. Villepin ne m'est nullement sympathique, mais c'est courageux. Voilà, et l'Irak est toujours dans un état abominable. Comme la Libye d'ailleurs, où nous avons aussi assassiné un dictateur. Enfin, fait assassiner un dictateur. Moi, je demande qu'on me cite une opération à caractère humanitaire qui n'ait pas été menée par les Français dans le souci de ses intérêts au premier chef.
Jacques Delcuvelry nous raconte sa perception du génocide rwandais en balisant les archives du spectacle du Group of Rwanda 94. Première partie d'une émission qui en compte deux. Deuxième partie, ce sera mardi prochain. Un montage signé Romain Pirard et le film de Marie-France Collard du spectacle Rwanda 94 est disponible intégralement sur Ovio après sa diffusion sur la 3.
jour. Allons à l'endroit, parler haut, parler bas.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.